Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Cette semaine, je reçois Laetitia Vandeval, fondatrice de l'Amazona, la première marque française de cosmétiques solides. Depuis 2010, Laetitia promeut un mode de vie responsable et zéro déchet en proposant aux consommateurs des alternatives durables aux cosmétiques conventionnels. Je connais très bien Laetitia, puisque j'ai été la première stagiaire et l'une des premières salariées de l'entreprise en 2015. Nous avions déjà enregistré un épisode pour la première saison de Basilic, mais le son n'était pas suffisamment bon pour que je puisse le diffuser. Entre septembre 2017, date du premier enregistrement, et mars 2020, beaucoup de choses ont changé pour l'Amazona. Ils sont aujourd'hui plus de 50 salariés, dont une quinzaine à avoir suivi le déménagement de l'entreprise de Montreuil en banlieue parisienne à Marche, un petit village drômois de quelques centaines d'habitants. Dans cet épisode, Laetitia nous raconte l'histoire de l'Amazona. Cette jeune chef d'entreprise qui s'est lancée avec 2500 euros n'a jamais réalisé un seul emprunt à la banque ou une levée de fonds. Elle est aujourd'hui à la tête d'une entreprise réalisant plus de 5 millions de chiffre d'affaires. Laetitia est une grande rêveuse, une idéaliste. Lorsque j'étais en stage avec elle, elle me disait qu'elle aimerait offrir à chacun de ses salariés, si un jour elle en avait, du temps pour soi, pour se consacrer à une activité sportive ou s'adonner à une passion. Avec son équipe, Laetitia a longtemps tâtonné pour trouver le rythme qui leur convenait le mieux. Elle nous raconte, au fil de l'épisode, comment l'ensemble de l'équipe a su trouver son rythme pour obtenir l'équilibre idéal entre vie professionnelle et personnelle. Elle nous parle également des projets à venir et des grands travaux qu'ils vont entreprendre, puisque l'équipe va déménager dans de nouveaux locaux très prochainement. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute à tous. Bonjour Laetitia.
Bonjour Jeanne.
Alors, on va commencer par les présentations. Donc, tu es la créatrice de l'Amazona, une marque qui a vu le jour il y a 10 ans déjà. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus ?
Alors, donc, je suis Laetitia. Effectivement, il y a 10 ans, quand j'avais 25 ans, j'ai créé l'Amazona et avec une idée qui était d'arriver à zéro déchet dans la salle de bain. Et auparavant, j'avais fait des études en communication et en marketing et j'ai travaillé dans l'audiovisuel pour une série télé pour la chaîne Voyage. J'ai travaillé pour une agence de production photo qui organisait des shootings, donc des choses très variées, un peu trop loin de l'écologique.
Est-ce que avant de créer l'Amazona, tu as entrepris d'autres projets ?
Ah oui, alors beaucoup, sous forme associative la plupart du temps, pendant que j'étais étudiante et puis après, mais on a essayé de lancer pas mal de sites internet, par exemple avec des copains. C'était avant Facebook, on avait lancé des sites internet sur lesquels on devait annoncer toutes les soirées, tous les événements dédiés aux étudiants, voilà, des choses comme ça. On y a passé des heures, des nuits, un temps pas possible pour un succès très, très, très mitigé.
Et comment est née l'idée de créer l'Amazona et donc de proposer des produits écologiques et responsables ?
Alors, tout est venu d'un seul produit qui sont les lingettes démaquillantes. L'histoire, c'est que je suis partie en week-end avec les copains en question et je ne m'étais pas démaquillée, mais j'avais emmené une serviette en microfibre d'une marque bien connue. Et le lendemain, en sortant de la douche, je me suis rendu compte que cette serviette enlevait tout mon maquillage d'un seul coup. Bon, elle m'avait arraché tous les cils en même temps, donc il y avait quelque chose qui n'était pas parfait, mais il y avait quand même une idée qui était là. Et du coup, j'ai cherché le bon tissu, sorti ces lingettes, qui ont encore connu 7 versions différentes, après la première qui avait été prévalidée par moi-même. Et tout est parti de ça. Et après quelques mois, je me suis rendu compte que faire vivre une entreprise, ne serait-ce qu'un projet personnel à l'époque, parce que j'étais vraiment toute seule, avec un seul produit, ça allait être compliqué, surtout qu'on était sur un produit durable, donc on ne rachète qu'une fois tous les 4 ou 5 ans.
Et alors, comment tu t'y es pris ? Je trouve assez intéressant pour l'Amazona de revenir sur la chronologie, parce que tu as tout commencé toute seule avec un tout petit peu d'épargne. Donc, au tout début, comment ça s'est passé ? Pour trouver un nom, un logo, créer des packaging, les distribuer ?
Alors, pour le nom, c'est mon colocataire géorgien, Nika, qui m'a proposé l'Amazona. Il savait que je cherchais un nom qui sonne comme le Swahili, Hakuna Matata. Et sauf que je n'arrivais pas à trouver, lui m'a proposé ça. Donc, c'était parfait, ça a été validé. Et là, j'ai fait un logo avec un hérisson pour la première version, un bébé hérisson, parce que je trouvais ça trop mignon. Là, les copains m'ont dit, c'est pas possible un hérisson avec des lingettes démaquillantes. Donc, il faut toujours confronter ses idées quand on lance une entreprise. Et l'idée du zèbre est arrivée ensuite en se disant qu'on pouvait effacer les zébrures du zèbre avec la lingette. Et là, j'ai posté un logo que j'avais fait moi-même sur Facebook. Et un copain m'a appelé en me disant « Mais c'est pas possible, c'est trop moche, je t'en fais un tout de suite. » Donc, merci beaucoup, Zou, pour me rassurer ce logo.
Qui est toujours là.
Qui est toujours là, mais Scoop, on doit le changer cette année pour fêter ses 10 ans. Justement, c'est Zou qui m'a rappelé en me disant « Dis donc que le petit zèbre, là, il serait temps de lui donner un coup de peigne. »
Ah, ok. Bon, bonne nouvelle. Et pour les emballages, au départ, c'était assez rose assez voilà, rose-violet, parce que tu voulais sortir du bio un peu classique, les couleurs vertes, bordeaux. C'est toi qui as imaginé tout ça. Tu avais vraiment envie de donner un coup de jeune au monde du bio.
Ouais, c'est ça. L'idée, c'était de surtout pas avoir un look papier craft pour réussir à toucher tout le monde, puisque c'était pas, il fallait pas convaincre les bio, les écolos, d'utiliser une autre version des produits qu'ils utilisaient déjà, mais bien de convaincre tous les autres. Donc le côté coloré était là pour ça.
Et pour la distribution, tu t'es basé uniquement sur un site internet ou des points de vente? Comment t'as fait?
Alors Jeanne, ça tu le sais très bien puisque tu as été la première stagiaire chez la Mazuna, en charge notamment du commercial.
Peu de produits à l'époque, les lingettes, les coupes menstruelles et les auriculis.
Oui. Et après, on avait des produits, mais qui n'étaient pas spécifiques à la Mazuna. Il y avait des savons d'Alep, il y avait du beurre de karité brut, des choses comme ça. Mais ça s'est éliminé petit à petit en ayant l'envie de ne faire que des produits vraiment propres à la Mazuna. Et du coup, pour la distribution, tu te souviens, on est allé voir les nouveaux Robinson, par exemple.
Ça, je m'en souviens. Je m'en souviens bien, c'était le premier jour de stage, je pense, ou le deuxième. C'était pas concluant, mais après, il y avait d'autres points de vente où ça a bien fonctionné.
Exactement. Donc au début, la distribution s'est faite donc à travers le site internet. J'ai toujours été très présente sur les réseaux sociaux. Et du coup, avec le bouche à oreille, les gens sont venus vers le site assez spontanément. Et les boutiques sont venues vers le site elles aussi. Beaucoup de boutiques belges, d'ailleurs.
Oui, à l'époque, tu étais distribuée dans un supermarché belge. Supermarché ou chaîne de magasins de beauté?
Ah oui, alors c'est Dee en Belgique. C'est un peu l'équivalent du Sephora français. Mais Dee était venu nous contacter spontanément. Et puis, on avait dit oui, ne sachant pas, même pas trop qui c'était. Et aujourd'hui, on est quand même plus centré sur des magasins avec un parti pris plus fort sur l'écologie, l'éthique et le responsable.
Tu as aussi travaillé avec un distributeur qui distribuait tes produits en pharmacie, parapharmacie?
Alors, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, il s'appelle Eolis. Et du coup, il s'occupe de nous distribuer effectivement en parapharmacie, chez les esthéticiennes. Et nous, on gère vraiment le réseau VRAC, le réseau bio, tous les indépendants, et les chaînes bio.
Et donc, si on revient un petit peu en arrière, donc là, quand tu as tes lingettes, ton auriculi et la coupe menstruelle, on est à peu près en 2013?
Oui, 2013-2014.
Ouais. Et après, tu as l'idée de créer toute une gamme de cosmétiques solides. Donc, c'est un petit peu différent parce que tu quittes ces produits très durables et tu passes sur des produits, bon, durables aussi, mais différents. Comment est née l'idée de créer ces shampoings solides? Et pareil, comment tu t'y es pris? Parce que toujours toute seule, sans lever de fond, ce qui est assez rare finalement aujourd'hui.
Alors, ouais, pour revenir sur le financier, du coup, effectivement, je suis partie de 2500 euros et je n'ai jamais fait d'emprunt à la banque, pas fait rentrer d'investisseurs, comme tu le dis. Et je n'avais même pas de découvert autorisé. Donc, tout est parti de ça qu'il a fallu faire fructifier petit à petit. Donc, les sorties de produits étaient décalées selon la trésorerie disponible. Et puis, j'ai eu du renfort en stage grâce à toi. Et on a eu une deuxième stagiaire juste après toi. Hein. C'était quasiment les deux seuls vrais stages chez la Mazuna. Et j'ai mis 5 ans avant de pouvoir me payer et donc d'embaucher. Et c'est là que tu es revenue d'ailleurs. Mais c'était, oui. C'était bien un an après le stage au moins, en 2015.
Ah ouais, ça devait être 2015.
Ouais, c'est ça. Première embauche en 2015.
Et là, à ce moment-là, tu avais déjà créé une gamme de shampoings solides.
Voilà.
Déodorants.
Alors ça, l'idée est venue, donc en continuant à prendre la poubelle de la salle de bain, en regardant ce qui s'y trouvait, il y avait forcément les flacons de shampoing, les sticks de déo et puis les tubes de dentifrice. Et autant sur les shampoings solides, ça existait déjà. Pour les déos, on voyait l'apparition des déodorants en crème de chez Schmitz et Sopoila, les Américains. Donc là, c'était en train de vraiment grandir aux États-Unis. Et c'est une autre stagiaire qui était là en même temps, hein, qui nous a fait découvrir ça. Et l'idée est arrivée de faire encore mieux, donc de ne même plus avoir le pot en verre et de partir sur un déodorant 100% solide, sans carton, sans rien. Et même logique sur le dentifrice, avec là l'idée de lui mettre un petit bâtonnet pour faire comme une sucette pour que ce soit pratique. Et sans peau, enfin vraiment de réussir à faire du 100% solide. Et les shampoings se sont ajoutés à la gamme puisque c'était là pour le coup plus facile puisque ça existait déjà.
Pour concevoir ces produits, tu as dû te rapprocher d'une savonnerie, d'un fabricant, ou est-ce que tu as fait des essais toi aussi dans ta salle de bain et ta cuisine?
Non, alors là je me suis rapprochée d'un fabricant qui savait déjà faire des shampoings solides. Et donc qui maîtrisait mieux la chimie que moi, puisqu'il n'est pas question de faire des erreurs là-dessus, c'est très très normé, en Europe notamment, mais tant mieux, puisqu'on doit déposer un dossier au niveau européen sur chaque cosmétique qui sort, et qui valide que vous ne mettez pas trop d'huile essentielle par centimètre carré de peau, selon si le produit est rincé, il reste sur la peau, etc. etc. Donc ça, ne pouvant pas trop l'expérimenter moi-même, j'ai fait appel à quelqu'un. Et c'est comme ça que la gamme est sortie fin 2014.
Et donc fin 2014, premières embauches donc avec moi et une autre commerciale à l'époque. On se partageait la France. Donc vraiment, toi, ton parti pris, ça a été de développer le commercial à fond. Toi, tu gérais tout le reste, évidemment, les approvisionnements, les réseaux sociaux. Mais c'était vraiment ton choix dès le départ de miser sur un réseau de revendeurs assez fort et bien établi partout en France et à l'étranger.
Oui, l'idée étant de démultiplier les forces, effectivement, sur le fait de faire connaître le zéro déchet. C'était encore très anecdotique, hein, à l'époque. On a les premières boutiques vrac qui arrivaient, mais il fallait faire connaître le concept, l'alternative. Et nous, à travers les réseaux sociaux, on avait un impact, mais qui était trop petit. Donc c'est comme ça qu'effectivement, toi et Alexandra est allée faire pas du porte-à-porte, mais téléphoner surtout. On restait pas mal dans les bureaux. On était à Montreuil à l'époque.
On était à Montreuil et pas mal de téléphones. Non, pas mal de rendez-vous physiques aussi finalement, à Paris.
Ah oui, à Vincennes. Ouais, c'est ça. Oui, c'est
pas
vrai.
Pas mal de rendez-vous physiques. Et après, dans la foulée, tu as choisi d'ouvrir une boutique physique à Paris. Pourquoi t'as fait ce choix? Est-ce que ça venait compléter? T'en ressentais le besoin ou les consommateurs te le demandaient?
Alors là, ça a été un pari plutôt maîtrisé, si on peut dire ça, en termes de coûts, puisqu'on passait par un logisticien à l'époque pour faire tous nos envois de colis. Et je m'étais rendu compte que finalement, le coût du logisticien couvrait un plein temps pour envoyer les colis et il couvrait aussi le coût d'un local. Et c'est là que je me suis dit, est-ce qu'on prend un petit hangar au fin fond de Montreuil ou est-ce qu'on prend une boutique dans Paris avec une vitrine? Et ne serait-ce que expédier nos colis nous-mêmes depuis cet endroit allait financer le tout. Donc si en plus on vendait quelques shampoings ou coffrets de lingettes aux gens qui passaient dans le coin, mais ça ne serait que bénéfique. Et du coup, le pari a été remporté puisque très vite, la boutique a pu vivre en tant que boutique par elle-même.
Autonome. Au début, tu faisais des collaborations avec certaines marques parce que tu pensais que ça suffirait peut-être pas en fait que les produits de l'Amazona, mais finalement, très vite, ça a suffi.
Ah oui, c'est vrai, tu vois, j'avais oublié.
Il s'est passé trop de choses.
Ah ouais, c'est clair. Oui, on avait fait rentrer Olution, donc la marque de Anne-Marie Gabellica. On avait réservé une étagère et au final, on s'est rendu compte qu'on avait déjà tellement à dire sur nos produits. Ça prenait déjà tout un moment avec les clients de leur faire faire tout le tour de la boutique, que rajouter encore une autre catégorie de produits à leur expliquer, ça devenait trop long. Donc on a essayé ça avec Anne-Marie et puis après on s'est concentré sur la Maisona.
Et la boutique, ça t'a aussi permis de devenir un lieu d'échange avec tes consommateurs, mais aussi avec les gens du quartier. T'as mis en place plusieurs choses, donc notamment une cabane à livres à l'extérieur de la boutique, mais également une bibliothèque, un système de bibliothèque dans la boutique.
Oui. Ça, c'est arrivé après. Alors, la cabane à livres, elle est toujours là. On l'a rafraîchie, par contre. Elle était fatiguée, mais on voit tous les jours des livres qui transitent par la cabane. Et pour ce qui est de la bibliothèque, elle se trouve à l'intérieur de la boutique. Et là, on partage les livres qu'on a bien aimés sur les sujets qui nous sont proches. Et pour ce qui est des échanges, on a toujours des ateliers gratuits animés chaque semaine dans la boutique.
Chaque semaine.
Chaque semaine, oui. On essaie de tenir le rythme. C'est pas toujours évident.
Et pour les thématiques abordées, c'est varié?
Alors, ça va de la cuisine au yoga, comment utiliser les huiles essentielles. Enfin, c'est très vaste, mais autour des thèmes qui nous sont proches. Ouais, c'est ça.
Et donc, quelques années après, vous vous êtes installé à Montreuil, l'équipe a grandi. Moi, je vous ai quitté pour aller à Hong Kong. Et il y a un an et demi, deux ans, tout le monde a déménagé dans la Drôme.
C'est ça.
Pourquoi et est-ce que comment tu l'as annoncé à ton équipe ? À l'époque, vous étiez combien ? Une quinzaine ?
On était une quinzaine, oui. Et ça faisait déjà quelques mois que j'expliquais que je voulais remplacer les tickets restaurants par un jardin en permaculture. Alors, l'idée, c'était que nous-mêmes, on cultive ce jardin, puisque Lucho avait déjà créé un paquet de bacs à plantes qu'il avait mis à l'extérieur du stock avec des tomates qui débordaient de partout. Mais le projet grandissant, le projet donc, de jardin est devenu de plus en plus sérieux à coller au projet L'Amazuna. Et j'ai commencé à chercher un terrain qui puisse nous accueillir pour construire notre local. Et ça, au cœur de Paris, ce n'était pas possible. J'ai commencé à regarder à Fontainebleau. Et là, ça devenait assez sérieux, mais j'ai réalisé que les gens allaient continuer à habiter dans Paris et faire les allers-retours en RER. Donc la qualité de vie sur laquelle je voulais leur faire gagner, finalement, j'allais leur en retirer. Donc je suis allée voir beaucoup plus loin. Et c'est un copain qui a une entreprise dans le Diois, donc près de Cré, au sud de la Drôme, l'herbier du Diois, qui m'a dit « Viens voir, on va voir si les gars de la communauté de communes font bien leur travail de rapatriement d'entreprise. » Et ils ont très, très bien fait leur travail. Après un week-end à bord de la Clairette, j'étais convaincue. Mais c'est à tel point que je n'avais pas moi-même mis les pieds dans la Drôme. Et j'ai annoncé à toute l'équipe qu'on y déménageait sans être venue ici. Mais j'étais tellement rassurée par cet ami qui n'était pas très loin avec sa propre entreprise. Et par un autre argument fort qui est que la Drôme était le premier département en bio de France.
Et comment ça a été accueilli par les employés à Paris ?
Alors, ça a été pris. Alors, si moi je vous l'explique, je vais vous dire que ça a été très très bien pris. Et si l'équipe vous l'explique, ils vont dire qu'il y a eu. Ça a été une sacrée annonce, un sacré moment. Mais en sachant vraiment que j'en parlais depuis longtemps, donc il y avait quand même une espèce d'attente de où est-ce qu'on allait atterrir. Là, les gens finissaient par attendre l'adresse, quoi. Et donc on a laissé à l'équipe le temps de la réflexion. Moi, ça m'a laissé le temps de chercher un local sur place. Donc Natexpo, le salon sur lequel le copain m'a présenté l'agglo, était au mois d'octobre. Au mois de novembre, j'annonce à l'équipe qu'on déménage. Et il fallait que fin janvier, j'ai l'adresse du local pour être sûr qu'on déménageait vraiment et pour que l'équipe puisse donner ses préavis de départ pour leurs appartements pour une arrivée au mois de juin. Puisque l'objectif était vraiment de déménager en début d'été pour qu'on puisse faire tout le transport, tout ce qui est compliqué à gérer et qu'on puisse tous avoir des vacances juste après, avant d'embrayer sur septembre. Mais on voyait bien qu'on manquait terriblement de place à Montreuil, il fallait qu'on bouge. Donc soit on redéménageait dans un local à Montreuil pour rebouger ensuite ailleurs en France, autant tout faire d'un coup. Donc le timing était là à respecter et assez serré.
Et alors, ça a été respecté ?
Et ça a été respecté. Ça s'est même très bien passé. On s'était inventé un geste. C'était à l'époque des nuits debout. Vous savez, on a inventé les gestes pour dire oui, merci, d'accord, pas d'accord. Donc là, c'était un geste qui était là pour dire attention, je suis en stress, pour qu'il n'y ait pas de panique qui monte dans l'équipe. Et le geste, ça a été utilisé une fois et c'est tout. Et sinon, ouais, franchement, ça s'est bien passé. Il y a une vraie solidarité dans l'équipe où on a partagé des camions de déménagement. Moi, j'ai emmené le lapin de Marie-Christine dans le train avec mon chien en laisse de l'autre côté. Enfin bon, ça a été une aventure, quoi.
Parmi tes salariés, il y a plein de profils différents. C'est quelque chose que tu mets pas beaucoup en avant, mais qui te tient beaucoup à cœur. On en avait parlé quand j'étais en stage et je me souviendrai toute ma vie de quand tu m'avais dit « Si un jour j'ai des salariés, je veux qu'ils aient du temps pour faire du sport, pour avoir des activités. » Donc déjà ça, on va en parler aussi, du temps que tu leur offres. Mais sur les profils, est-ce que tu peux nous détailler un peu ton équipe ? Aujourd'hui, vous êtes 50.
Oui, c'est ça, on est une cinquantaine. Alors, ce qui était vrai à l'époque, l'est un peu moins maintenant en termes de profil disparate, puisque, donc, tu l'as vécu, je voulais pas de commerciaux qui soient des commerciaux, pas question. Je voulais pas avoir des gens formatés, finalement. Et donc Nina qui a pris ta suite avait un profil de designeuse, rien à voir avec le commercial. Lucho qui s'occupait bientôt des appro-achats a un profil d'ingénieur en géologie, rien à voir. Enfin voilà, on a toute une équipe qui s'est constituée comme ça. Et ça a très bien fonctionné jusqu'à un peu après le déménagement, où là c'est l'équipe qui a été en demande de structure, où chacun sur son pôle a commencé à dire « écoute, je sais pas faire mieux que ce que je sais faire là ». Et moi-même, j'étais pas mieux formée qu'eux, donc je pouvais pas les aiguiller non plus. Donc on a décidé de prendre des managers plus en capacité de prendre le relais. Et c'est là qu'on a commencé à embaucher des gens avec des profils un peu plus costauds ou avec beaucoup plus d'expérience, parce que la moyenne d'âge dans l'équipe, elle avait 25-30 ans. Là, on est monté à 33,5. Donc, bon, on n'est pas encore trop vieux, mais bon. Mais donc voilà, donc cette structure est arrivée, mine de rien, et à la demande de tout le monde, finalement.
Et comment ça s'est passé pour toi de leur offrir du temps et de leur donner du temps, qui était quelque chose... voilà, c'était une chose à laquelle tu tenais beaucoup.
Ouais, alors on a essayé des choses différentes. Avant de déménager, on a essayé la semaine de 4 jours. Et donc l'idée, c'est bien de faire 35 heures pour avoir une paye complète, mais condensée sur 4 jours. On a eu du mal à le mettre en place. À l'équipe logistique, ça marchait bien. Et sur les autres équipes, c'était plus compliqué, puisqu'il faut vraiment avoir des binômes sur chaque poste, puisque l'idée n'est pas d'abandonner l'une des missions pendant une journée. C'est pas possible vis-à-vis de nos clients. Donc ça nous a pas semblé être la meilleure solution pour nous. Du coup, on a profité du déménagement pour demander sur les réseaux sociaux à nos clients est-ce qu'ils avaient des idées, eux, d'organisation, ou des choses qu'eux-mêmes vivaient dans leur boîte et qui leur plaisaient bien. Et il y en a une qui est ressortie, c'est aménager le temps de travail pour que tout le monde finisse à midi le vendredi. Donc on a pris ça. Et on a complété. Donc du coup, on finit à midi le vendredi et on a une arrivée libre le matin entre 8h et 9h et départ libre entre 17h et 18h. Donc si vous arrivez à 9h15, vous repartez à 5h15 et vous ajustez tous les jours votre travail. Donc vous vous débrouillez. Tout le monde fait 35 heures, ouais. Et on a mis en place un autre programme pour les parents pour leur permettre d'avoir le vendredi après-midi et le mercredi après-midi. Et du coup, eux arrivent à 8h, ils repartent à 18h. Lundi, mardi, jeudi, et ils arrivent à 8h, ils repartent à midi, le mercredi et le vendredi. Et ça, c'est vachement apprécié, puisque bah, bien souvent, on a le mercredi après-midi pour les enfants, mais ce vendredi après-midi qu'on a là juste pour soi-même, c'est vraiment un plaisir et un bon moment de relâchement.
Ouais, juste avant le week-end, ça permet de faire un week-end de 2 jours et demi.
Exactement, de faire les courses, de faire vraiment tout ce qu'il faut pour après être vraiment zen quand arrive le week-end.
Et alors, comment tu le ressens, toi? Est-ce que tu sens que tes équipes sont... plus disponible, plus relax. En plus, elles sont dans la Drôme maintenant, il fait beau tout le temps.
Alors moi, personnellement, j'ai vraiment l'impression de faire des journées avec le double d'efficacité et pourtant, je rentre beaucoup plus tôt chez moi qu'avant.
Tu l'appliques aussi pour toi?
Alors, je l'applique le vendredi après-midi, comme ça, je suis tranquille pour bosser, tranquille. Mmh. Mais vraiment, étant moins sollicitée par toutes les publicités, etc., on a quand même l'esprit qui est plus calme. C'est un cliché, mais de le vivre, oui, je peux vraiment confirmer que c'est ça. Et pour ce qui est des horaires, là, je pense qu'on ne va pas revenir dessus. Tout le monde en est vraiment ravi. Et on a mis en place quelque chose qui, là, se révèle vraiment nécessaire avec notre épidémie, c'est le télétravail. Ça fait un an qu'on est en test là-dessus et que c'est un succès. Et du coup, au début, on ne mettait qu'une journée possible en télétravail par semaine. Et finalement, on a proposé à chaque manager de gérer comme il le souhaitait au sein de son équipe.
D'accord, parce que maintenant, ça se décline. Donc, tu as des managers pour différents pôles?
Oui. Ah oui, alors on a la RH, communication, commercial, la pro-achat, logistique, la compta, voilà à peu près vraiment les services classiques qu'on retrouve un peu partout.
Et vous vous êtes fixé une autre limite de 150 embauches maximum, et pas une
c'est
de
ça.
Plus, t'as dit, pour l'Amazuna.
C'est
pourquoi?
Alors on grandit vite, et pour être dans les chiffres, on était une vingtaine il y a un an, et là on est plus de 50, donc effectivement ça va très très vite. Et c'est génial, c'est euphorisant, mais à un moment donné on se demande mais jusqu'où on va aller dans ce cas-là. Et du coup j'ai lu des études qui montrent qu'à 150, on a un groupe dans lequel on n'a pas besoin d'une structure trop sévère pour que ça fonctionne bien ensemble, et on peut encore tous se connaître les uns les autres. Donc c'est ce que j'ai donné comme limite à l'équipe, c'est de réussir à être 150. Donc ça, on pense y arriver d'ici un an et demi à peu près. Ça devrait arriver très vite. Mais tout le challenge, ce sera de rester 150 le jour où on en sera là.
En sachant que vous ne faites pas tout ici, on en parlait tout à l'heure quand tu m'as fait visiter vos nouveaux bureaux, mais il y a des ESAT, donc des centres avec des personnes handicapées ou en réinsertion qui conditionnent certains de vos produits.
Oui.
Et vous avez votre fabricant de produits, toujours le même, qui est dans le sud de la France et qui, lui, a aussi embauché grâce à vous.
Oui, oui, oui. Alors là, on a donc là le fabricant dont tu parles, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est cosmétiques solides. Mais en soi, on a une trentaine de fournisseurs différents en France, et il faudrait qu'on refasse un compte du nombre d'embauches grâce à nos produits, mais c'est assez marquant.
C'est énorme, ouais, c'est super. Et avant qu'on achève tout ça, j'ai encore quelques petites questions, mais pas beaucoup. En parallèle de l'Amazuna, tu as souhaité, donc l'Amazuna qui est plutôt cosmétique solide et qui s'occupe de voilà, gérer les déchets ou l'absence de déchets dans le foyer, tu as été plutôt sur la mode éthique avec Cabane qui maintenant est rattachée à l'Amazuna.
Oui.
Pourquoi la mode ?
Alors ça fait longtemps que je voulais lancer ce projet, puisque la mode éthique, donc on connaît hein, maintenant avec le Rana Plaza, ça y est, les esprits sont éveillés sur l'impact de la mode à bas prix, mais je trouvais qu'on manquait de solutions en face du problème. Et du coup, j'ai voulu faire un site qui soit un site de revente de différentes marques pour pouvoir avoir le choix dans ce qu'on souhaite porter. Et je voulais pas que ce soit une place de marché. Donc je voulais vraiment qu'on paye le stock aux fabricants. Mmh. Puisque moi-même, avec l'Amazuna, j'ai passé tellement d'heures à remplir des fiches produits sur des places de marché pour vendre 2 shampoings par mois. Ça m'a vraiment fait du mal en termes d'organisation quand on était plus petit. Donc je voulais pas faire vivre ça à des jeunes créateurs. D'où la naissance de Cabane. Sauf que Cabane, on a eu du mal à créer un trafic assez important dessus. Et du coup, on a décidé de rapatrier, d'unir les forces et de mettre Cabane sur l'Amazuna. Donc tous les créateurs de mode éthique qu'on a repérés, interviewés, choisis avec soin, on les a rebasculés sur l'amazuna.com avec un onglet mode éthique, tout simplement.
Et toujours le même principe, vous achetez leur stock.
Ah oui, 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 toujours. Ouais.
Pourquoi c'était important pour toi de leur acheter les stocks ? Qu'est-ce que ça leur permet ?
Ça permet d'avoir de la trésorerie tout de suite, de bosser sur les collections suivantes. Surtout que dans la mode, on est sur des temps entre la validation, entre les appros et la livraison chez le client qui sont énormes, chez le client professionnel, pardon. Donc il faut vraiment qu'ils soient costauds en trésorerie s'ils veulent réussir à perdurer. Et on est sur plein de petites marques qui sont face à des mastodontes. Je trouve que le marché est beaucoup plus difficile que celui de la cosmétique.
Ouais, c'est vrai. Et puis il y a moins de magasins au final pour la cosmétique. Finalement, tous les magasins bio ont depuis toujours un petit rayon. Rayon cosmétique, mais en mode pas
c'est
tellement.
C'est ça. Il faut vraiment des magasins dédiés et ils sont peu nombreux.
Et sur le site de l'Amazuna, aujourd'hui, vous avez fait une grande refonte. Il est tout beau, tout neuf. Et vous proposez aussi d'autres marques. C'était aussi pour toi une façon de mettre en avant d'autres créateurs, d'autres marques de cosmétiques
Oui, c'est ça. Finalement, quand on a pris la décision de mettre la mode sur l'Amazuna, on s'est dit, mais pourquoi s'arrêter là ? Autant tout proposer pour une vie zéro déchet. Alors, le but, c'est pas d'avoir 500 sacs à vrac différents. C'est vraiment, on sélectionne les marques qu'on aime particulièrement pour leur engagement, qu'on suit depuis leur naissance, hein, bien souvent. Et du coup, là, c'est l'occasion de leur faire un petit coucou et puis un petit soutien à travers le site.
Notamment Koufou. Donc, tu regardes le sac qui est juste là. Et en parallèle de l'Amazuna, tu as développé récemment une gamme plutôt à destination des supermarchés et des grandes et moyennes surfaces. Pourquoi tu as choisi ça ? Je sais que ça a été longtemps un dilemme. Je me souviens,
oui.
À l'époque, Franprix voulait revendre les produits de l'Amazuna et tu avais dit non.
C'est ça.
Pourquoi la grande surface et comment tu as mené cette réflexion ?
Alors au début, on estimait que Franprix, justement, quand ils nous appelaient pour avoir les produits, c'était qu'ils voulaient travailler leur image verte. Et donc il n'était pas question qu'ils utilisent l'Amazuna pour leur image extérieure. Et du coup, il y a eu un basculement. Je suis intervenue chez Facebook pendant une petite conférence un matin avec à côté de moi la responsable marketing de L'Oréal qui annonce à tout le monde que dans 2 ans, L'Oréal sortira des cosmétiques solides. Et ça, c'était en janvier, il y a un peu plus d'un an. Alors là, gros coup de froid dans le dos.
T'as dû faire une drôle de tête.
Ouais, c'est ça. Et alors, je lui ai répondu que c'était marrant parce que justement, on avait reçu une commande de ses salariés pour offrir des shampoings solides à Noël, une de leurs équipes RH ou je ne sais plus. Enfin bref. Et du coup, là, je me suis dit, mais mince, de toute façon, L'Oréal va y aller. Donc, au lieu de leur faire faire n'importe quoi et de profiter d'un marché qu'on aurait créé, autant y aller nous en faisant les choses aussi bien qu'on les fait habituellement avec l'Amazuna. Et c'est ce qui a déclenché la création de The Green Emporium. Et donc vraiment avec les mêmes engagements que l'Amazuna, mais on en profite pour reverser des sous à Surf Rider Foundation. On reverse 10 centimes par produit vendu, là où avec l'Amazuna, on finance la plantation d'arbres. Donc ça nous donne l'excuse d'agir sur 2 tableaux en parallèle et de ne pas laisser L'Oréal tout seul aller ouvrir un marché. Quoi.
Mmh. Surtout avec des compos toujours aussi clean de votre côté, tandis que L'Oréal, on ne sait pas...
Voilà, c'est ça.
On aurait moins confiance. On aurait tendance à avoir moins confiance. Et comme tu mènes toujours plein de projets en même temps, tu travailles aussi sur vos futurs bureaux, parce que là, vous commencez à être un petit peu serrés. Vous êtes 50 dans des grands bureaux, mais bon, c'est pas suffisant. Ces bureaux, comment tu les as imaginés? Est-ce que tu vas pouvoir mettre en place ce jardin de permaculture?
Eh bien, tout à fait. Donc, si on a déménagé là, c'était pour le jardin. Le délai qu'on s'était donné, c'était un an pour vérifier qu'on était bien dans la Drôme et si oui, trouver un terrain et ensuite lancer la construction, ce qui devait prendre 2 ans. Donc là, on est à 1 an et demi. Le terrain, enfin, on a validé qu'on était bien là, tout le monde était bien d'accord. Le terrain a été trouvé, le compromis est signé et là, on en est à la phase du permis de construire. Pour que d'ici 1 an et demi, notre écolieu sorte de terre. Alors on dit écolieu et non pas seulement bureau, puisque l'idée c'est d'avoir nos bureaux respectant tous nos engagements et le jardin permaculture à côté, avec le challenge de le faire labelliser jardin remarquable. Donc c'est-à-dire que ce sera un jardin ouvert au grand public et on ne ferait pas seulement pousser nos tomates, mais en plus on les ferait pousser d'une manière vraiment très jolie. Autour de ça, on aurait 2 hectares de lavandin bio. Ce lavandin bio étant utilisé pour sortir une huile essentielle qu'on va utiliser nous ensuite dans nos produits. Il y a une distillerie qui vient d'ouvrir juste à côté. Donc c'est un appel parfait. Du pied parfait. Et donc le jardin alimentera le restaurant d'entreprise qui alimentera les équipes. Et on ajoute à ça une micro-crèche avec cet objectif 150. On sait que des bébés vont arriver. Et donc ce sera l'occasion de bien s'en occuper, de donner du confort aux parents et nous de vivre le zéro déchet dès la petite enfance. Donc on essaie d'avoir un projet le plus cohérent possible.
Donc vraiment une démarche zéro déchet de A à Z. Pour l'écolieu, comment tu l'imagines? Est-ce que tu vas le faire, comment ça va être conçu par des gens du coin? Tu vas miser sur le local, j'imagine?
Alors pour l'écolieu, là on est sur la partie plan, donc on est avec un architecte du coin, oui. Et on travaille avec un bureau d'études en fluide. Là c'est vraiment le travail qui se fait ces jours-ci. Et qui est le plus important, puisque les fluides, c'est ce qui détermine le chauffage, la clim, comment est-ce qu'on le gère. Donc là, ce qu'on essaie de faire, sont des bureaux sans climatisation. Sachant que ce qui est compliqué à l'heure actuelle, c'est de gérer le chaud l'été. On est dans une région où il fait relativement chaud, et il faut qu'on y arrive. Donc on est vraiment là-dessus, là, à fond.
Et j'ai vu aussi que tu essayais de réfléchir à ce que chaque bureau soit placé à moins de 6 mètres.
C'est ça,
des
d'une
fenêtres.
Fenêtre. Ouais, ça, c'est pour le confort des salariés au quotidien. Il y a tout un référentiel qui existe. Alors il y a le référentiel WELL, W-E-2-L, ça c'est un référentiel américain, donc des fois il va moins loin que ce que nous on souhaite faire.
Sur et les bureaux
sur vraiment... les bureaux, ouais. Oui, c'est vraiment sur le confort de travail. Ça va aussi avec l'insonorisation, avec les flux d'air, toutes ces choses-là. Donc on est parti de ça pour avoir certaines idées, puis on en a d'autres qui viennent d'autres référentiels. Enfin, on essaie de tout coordonner pour être au top du top.
Et j'ai vu également, et ça je trouvais ça assez sympa, que tu quittes cette mode de l'open space qui a été, la mode et qui est toujours la grande mode, pour finalement concevoir des bureaux par pôle. Est-ce que c'est pareil, quelque chose que tu as vu dans des études, ou c'est toi qui finalement te dis que l'open space ça convient pas à tes équipes?
Ouais, là c'est vraiment notre vécu. On s'est rendu compte que quand on était une tablée de 12, si vous interpellez celui qui est à l'autre bout, vous dérangez tout le monde. Et, l'équipe grandissant, on est de plus en plus tassés les uns sur les autres. Et même si on s'adore, il y a des jours où ça peut être un peu fatigant. Donc on essaie de faire plus simple. Et du coup, le fonctionnement en pôle, c'est qu'on a un côté un peu famille dans nos pôles. L'équipe commerciale est allée faire un escape game la semaine dernière. Celle d'avant, c'était l'équipe communication qui sortait manger une pizza. Enfin bref. Donc on a vraiment cet orga en petite famille que du coup, on va essayer de reproduire dans les bureaux. Et ce qui permettra à chaque pôle de se faire sa propre décoration, par exemple. De vraiment s'approprier son espace.
Et pour toi qui as conçu et imaginé l'Amazona depuis le début, ça fait quoi d'avoir plein de pôles comme ça qui prennent un peu leur envol?
Alors, ça a été une petite phase de changement, de réaliser un jour que finalement, je ne pouvais plus être au courant de tout ce qui se passait. Et l'arrivée des managers, au début, pareil, me faisait un petit peu bizarre. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte que c'est une vraie force et j'ai vraiment confiance en eux. Donc, je sais que le projet transparaît bien à travers leurs propres décisions, donc tout va bien. Mais oui, c'est un des sacrés changements.
Ouais, que si tu pars en vacances, ça ne s'arrête pas et que ça continue de fonctionner.
C'est ça.
Donc tu peux prendre des vacances maintenant, après 10 ans.
Il est temps d'en profiter.
Non-stop. Super. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On va aller déguster un bon repas local.
Ouais, fait par Martine, qui nous fait des repas vegan avec que des ingrédients locaux. Parfait. On est gâtés ici.
On est gâtés. Et puis, comme d'habitude, j'indiquerai tous les liens utiles pour les auditeurs en barre de description. À très bientôt.
Merci, Jeanne.
Merci. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Le mois prochain, le hors-série sera consacré aux équipes de l'Amazuna que j'ai eu la chance de rencontrer lors de mon passage dans la Drôme. D'ici là, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment Instagram et Twitter où je suis assez active, @basilicpodcast. Si vous souhaitez soutenir mon travail et m'encourager, il vous suffit de me laisser un petit commentaire sur la plateforme d'Apple Podcast ou celle d'Ico Podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt !